Random.
Radio Campus.
Lille.
106,6.
FM.
Contre-culture.
Random.
Random.
Émission radiophonique.
Un dimanche sur deux.
19-20h.
De l'information.
De 19h à 20h.
Radio Campus.
Lille. C'est Random.
106,6
MHz. 106,6.
Hacker
du groupe Dégénéré Sciences Libres.
Sur Radio Campus.
Un dimanche sur deux.
Random.
L'émission préférée des
M-Tech.
Oh, comme c'est fort.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la 8e émission de Random. Donc avec aujourd'hui une équipe un peu moins grande que la dernière fois, mais déjà pas mal. Donc il y a...
Donc Man Martigan, bonsoir.
Et c'est Alix.
Et donc moi, Little Charlie, à la technique. Donc aujourd'hui, au niveau des news, donc ça va être assez chargé, assez politique. Donc on va parler tout d'abord de vie privée avec un article de Jean-Marc Manac, donc le point de vue des petits cons. Vie privée, le point de vue des petits cons. On va faire parler de quelques news sur Adopi, parce que de toute façon il y en a un peu tout le temps.
Ouais.
On va revenir sur le hackerspace de Malmo, qui fait encore parler de lui, et donc parler de l'Opsi et de Acta. Et aussi d'un dossier donc fait par Bluetooth sur la sécurisation des lignes. Voilà. Donc, on va commencer par un article de Jean-Marc Manac. Donc Jean-Marc Manac est un journaliste qui est très connu pour suivre tout ce qui est problématique de liberté numérique, vidéosurveillance ou vidéoprotection, ça dépend... le point de vue de la personne. Donc il a fait un article donc publié sur lemonde.fr où il dresse un parallèle entre la jeune génération et donc les digital natives et donc les il fait un parallèle avec la révolution sexuelle. Donc il se demande au départ si le fait que il y a des personnes qui luttent pour la vie privée, ce serait pas un problème d'avoir un esprit pas très ouvert, un problème de vieux con. Il explique qu'en fait la façon dont les jeunes ont utilisé la technologie a un peu changé leur façon de l'utiliser, qu'il n'y a pas le même raisonnement.
Oui, voilà. C'est-à-dire, au début, moi, j'ai l'impression qu'il donne vraiment le point de vue des adultes ou qu'on peut avoir en disant, les jeunes n'ont plus de notion de vie privée. Et après, bon, il remet un peu en doute cette affirmation en disant que c'est une vision différente, c'est pas qu'ils en ont plus, c'est que c'est différent, c'est qu'il y a plein de choses qui ont changé. Et ouais, il décortique un petit peu tout ça, donc c'est intéressant. Notamment quand il enchaîne sur le monde du travail, où on sépare de moins en moins, pour les générations qui arrivent, où on emmène. Par exemple, au travail, on va envoyer des SMS ou des choses comme ça. Mais aussi, d'un autre côté, par le télétravail ou même sans ça, des fois, on ramène plus de travail à la maison, en fait. Donc, il y a un changement des mœurs. Voilà.
Donc, dans les autres news, on va parler donc d'Adopi. Adopi qui enfin commence à être opérationnel vu que les premiers courriers vont être envoyés entre avril et juillet. Donc c'est au niveau de la surveillance des réseaux, c'est donc Trident Media Guard TMG, une société détenue en partie par Thierry Lhermitte, un ancien bronzé, qui a récupéré l'appel d'offres pour surveiller le réseau. Et donc voilà. Il y a un article de Reed Web qui se base en fait sur une étude de Bluetooth en partie, il me semble, sur le fait que la négligence caractérisée qui est créée par Adopi 1 et Adopi 2, c'est un truc qui peut pas exister, que ce que fournissent les faillis.
Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a Bluetooth qui a sorti ce qu'il appelle un livre blanc. Il l'a appelé Wi-Fi présumé coupable, les dossiers noirs d'Adopi. Dedans, en fait, donc c'est un document qui est sous licence Creative Commons. Dans un premier temps, il définit un peu le contexte de ce qu'on appelle le délit de négligence caractérisée. Donc il explique ce que c'est, qui ça concerne et dans quelle situation. Ensuite, il fait un petit peu un panorama des diverses technologies de cryptographie pour le Wi-Fi, hein, WPA, le web. Donc il dresse un petit peu un panneau de où en sont ces technologies vis-à-vis de si elles ont été craquées, si elles sont fiables, dans quelles conditions et dans quel cadre. Donc il fait un petit peu le tour de tout ça. Il nous explique tout ça. C'est assez clair. Hein, il a pas mal vulgarisé la chose. Je trouve que c'est assez accessible, la façon dont c'est fait. Ensuite, il fait un panorama pareil de où en est le parc Wi-Fi français, si j'ose dire, actuellement. Et pourquoi, en fait, il est totalement incompatible avec cette loi Adopi face au délit de négligence caractérisé. Donc c'est un petit document, on vous mettra les liens pour que vous puissiez vous procurer. Moi je trouve qu'il est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, il est accessible en fait. Hein. Donc même les gens qui n'ont pas de notion technique, vous pouvez leur conseiller. Ça clarifie quand même des choses. Et ça montre bien par A plus B actuellement la loi Adopi, elle est... Enfin, on va avoir un gros problème vis-à-vis du délit de négligence caractérisée. Voilà pour ce document.
Donc au niveau des news, ensuite il y a le hackerspace de Melmo. Donc le hackerspace de Melmo avait déjà été perquisitionné suite à un problème... d'alcool en fait, il y avait eu de l'alcool qui avait été ramené.
Ouais, c'était le prétexte, c'était l'alcool, mais c'était il y a deux émissions, je crois. On avait discuté.
C'était en décembre.
Ouais, voilà. Donc là, ils ont remis couvert apparemment, mais
il y a énormément de difficultés à avoir des infos parce que les seules infos vraiment détaillées ont été elles ont été rédigées dans l'urgence, donc voilà.
Voilà, donc on attend un petit peu les traductions pour.
Donc là, ce qui a été en fait touché, c'est surtout l'infrastructure, les serveurs du hackerspace.
D'accord.
En fait, il y a eu une saisie à propos d'un. Il y a eu une saisie d'un ordinateur. Il y en a d'autres qui ont été pris en plus, qui n'étaient pas nécessaires à la saisie. Donc voilà. Au niveau des news, on a beaucoup parlé de pas mal de sujets législatifs, et au niveau de tout ce qui est travaux législatifs, il y a un groupe qui se bouge pas mal sur tout ce qui est défense des libertés numériques. Bon, ça reste un groupe de pression avec les limites et avec les limites d'un groupe de pression. Donc il y a la quadrature via le blog de EDN. Qui indique que ils sont dans le rouge au niveau compta. S'ils continuent comme ça au niveau budget, ils arriveront juste en mai, mais après ils seront obligés d'arrêter parce qu'il y a une personne voire deux qui bossent pratiquement à plein temps là-dessus sur des dossiers législatifs comme le paquet télécom, l'OPSI, Adopi, ACTA. Donc ils font un appel à dons. Et donc voilà, on a beau ne pas être sur le même ici, donc dans le collectif des générations et à l'émission Random, être globalement sur une autre position, en fait, on relaye l'appel à don parce que voilà. Donc, vu qu'on est encore dans les dossiers législatifs, là, donc il y a une nouvelle loi qui arrive, qui est l'OPSI, la loi d'orientation pour la performance, d'orientation de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Donc c'est encore une des LSI, des lois de sécurité intérieure, qui en fait met un peu plein de choses. Il y a normalement le mouchard, la possibilité d'utiliser un mouchard pour les forces de l'ordre qui devraient être dedans, mais je ne l'ai pas lu pour l'instant. Il y a le plus inquiétant, c'est la censure de l'Internet français, le filtrage de l'Internet français, pour des raisons de pour lutter contre la pédopornographie. Alors même si le but est noble, on va voir que c'est une solution qui est au pire inefficace, voilà, elle est soit inefficace, soit dangereuse, elle risque de favoriser le développement de tout ce qui est panopornographie. Mais on y reviendra ouais, un peu plus tard. Voilà.
Moi j'avais une petite news aussi sur la PS3 pour les gamers. Donc la PS3 a été hackée par George Hotz. Alors il doit avoir une vingtaine d'années là actuellement. C'est déjà celui qui avait sévi sur l'iPhone en 2007, ce qui lui avait valu apparemment un stage chez Google dans le cadre de ses études. Donc voilà. Et on lui avait aussi échangé son iPhone contre une voiture à 38 000 $ pour la petite histoire. Donc là, voilà, c'est tombé le 22 janvier où toute la marche à suivre de son hack en fait est sur son blog. Et voilà, donc il a déclaré fièrement sur la BBC « J'ai hacké la PS3, le reste n'est qu'une question logicielle ». Et d'ailleurs, il y a un wiki qui est prévu à cet effet pour rassembler les développeurs que ça intéresse pour faire tourner du soft sur la PS3. Donc voilà, voilà. Sinon, il y a une petite étude aussi sur les mots de passe qui est tombée, où en fait, il y a un hacker qui, via une faille MySQL, c'est dégoté 32 millions de mots de passe. Donc sur le, c'était des mots de passe des utilisateurs du site rockyou.com.
Le site 2.0 encore.
Ouais, voilà, tout à fait.
Vive le 2.0.
Tout à fait.
Est-ce qu'on sait s'ils ont été laissés en clair les mots de passe sur la base MySQL?
Non, j'ai pas de détails à ce niveau-là, non. Mais
les mots de passe étaient stockés en clair, vu qu'il y a eu une étude pour savoir ce que.
Oui, voilà.
D'accord, en fait, donc il en a fait une étude, ouais, pour savoir si c'était genre 1, 2, 3, 4, tout ça.
Oui, tout à fait, c'est ça en fait. C'est, donc l'étude montre qu'en fait, le premier mot de passe qui sort à 297 000 exemplaires, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout bêtement.
D'accord, carrément. Voilà.
Et dans le top 10, il y a, y a aussi 1, 2, 3, 4, enfin il y a plein de dérivés de choses simples. Et il en ressort des statistiques.
Est-ce qu'il y a le célèbre Dieu God dessus?
Ah non, là je l'ai pas vu passer celui-là, j'ai pas vu celui-là. Mais il y avait tout simplement Rockyou, comme c'est sur Rockyou.com, donc il était 6e je crois, Rockyou.
Il y avait Password aussi.
Oui, il y avait Password en 7e position, tout à fait. Ouais.
Il y avait quand même pas Root ou Admin.
Non. Mais il en ressort de cette étude en fait que 50% des internautes ont le même mot de passe pour tous leurs comptes. Donc ça c'est un petit peu, on voit bien que si on chope le mot de passe de quelqu'un sur un compte, et ben on peut vite aller sur tous ces petits comptes de tous ces sites préférés.
Voire même, et c'est plus grave parfois, c'est au niveau des réseaux informatiques d'entreprise où tous les postes et tous les comptes ont le même mot de passe. Quel que soit le salarié ou le dirigeant, quel que soit le poste, quel que soit le service, donc que ça soit un partage Windows ou de l'IMAP ou de l'IMAP S.
Bien sûr.
Je me mets un peu à la place de l'administrateur réseau. À chaque fois, il doit choisir entre simplicité, parce que les utilisateurs râlent et qu'il a la pression, et réussir à avoir de la confidentialité, à avoir tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que c'est assez difficile quand on est utilisateur d'expérience de leur dire, bah, écoute, non, je vais te faire un mot de passe complexe que tu vas devoir changer en plus tous les mois. Et tant qu'en fait, ils n'ont pas eu de soucis de piratage ou autre chose, ils ne voient pas l'intérêt.
Mais il y a une solution un peu intermédiaire qui peut être de faire de l'authentification forte et plus par mot de passe. On met un certificat sur l'ordinateur de l'utilisateur et simplement, là, il a besoin de retenir un mot de passe important pour déverrouiller sa machine.
Et après, tu es confronté au problème de ceux qui sont mobiles, qui veulent se connecter de chez eux, par exemple. Bon. Il faut leur installer leur chiffrage, il faut leur mettre leur certificat, qu'ils viennent sur place avec leur laptop, qu'ils y pensent. Enfin bon, c'est encore après...
Toute une galère.
Voilà.
Je souhaiterais que tu...
Ouais, non, juste pour finir, il y a des petites choses qui m'ont amusé. Il y a aussi en 20e position, il y avait QWERTY. Donc pour les claviers américains, en fait, nous, c'est AZERTY, mais eux, c'est QWERTY. Donc les gens prennent les premières touches du clavier. En 20e position, c'est pas mal. Et en fait, on voit que si on fait un dictionnaire de 5000 mots de passe les plus courants, eh ben, 20% des internautes, en fait, utilisent ces mots de passe-là. Donc pour les attaques par force brute... ça facilite amplement les choses.
D'accord, bon, je souhaitais juste rebondir sur le fait que même dans une petite entreprise où tous les salariés sont de confiance, c'est important quand même de mettre des mots de passe assez forts pour les machines Windows, pour les partages, parce que j'ai déjà vu des vers qui avaient bouffé le réseau chez nous pour une autre raison. Nous, c'était par clé USB, en fait, tout le monde utilisait ça. Mais en fait, le truc, il va scanner le réseau local. En fait, il va essayer d'infecter les machines Windows à côté en brute-forçant les mots de passe. Alors, il y a plein de raisons, je l'ai disséqué, mais...
Et le truc bien vicieux qu'on peut avoir comme ça, avec ce verre-là, je l'ai eu aussi, c'est qu'il arrive, il se fait les partages Windows, il prend des fichiers au pif, et il les prend en pièce jointe pour créer des mails et envoyer un peu à droite à gauche, et s'envoyer lui-même avec. Résultat, vous avez le directeur qui se pointe, qui vous fait « Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a tout le carnet d'adresse qui a reçu les fichiers confidentiels. Comment pas ? Qu'est-ce que vous avez foutu ?» Ouais, mais là, pas grand-chose.
Et en plus, comme chez nous, c'est super cool. Il y a eu un jeune qui a eu un gros stress parce que tout le monde se retournait contre lui.
D'accord.
Si je peux juste dire une dernière petite chose par rapport aux sites qui ont des mots de passe en clair dans leur base SQL, ce serait quand vous arrivez sur une grosse plateforme de faire le test, de lui demander de vous renvoyer votre mot de passe. Et si jamais il vous dit, bah voilà votre nouveau mot de passe bien propre, bien strong comme il faut, restez dessus, mais boycottez ceux qui vous renvoient votre mot de passe en clair.
Ouais.
Je pense que sur ce...
on va faire une petite pause musicale.
Vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales ou sur le canal random du réseau silk.dg-sc.org. Toutes les infos sont sur le site lille.dg-sc.org/random.
Reviens, tu t'amuseras, je te le promets.
Mr. Radio-T, save me. Mr. Radio-T, help me. Mr. Radio-T, stand up for my rights.
Say we.
Help me.
Bon, donc, nous revoilà. Donc pour la partie développement, on va parler donc là surtout du projet Lopsy et un peu du projet ACTA. Donc le premier, c'est un projet de loi qui va être voté à partir du 9 février à l'Assemblée nationale, qui est déjà passé en commission des lois où il y a eu quelques modifications. Et donc le second, c'est un traité donc sur la propriété intellectuelle.
À l'échelle mondiale.
À l'échelle mondiale. Donc voilà, donc on va commencer donc par la Lopsy. Donc la Lopsy 2, donc Lopsy 2, parce qu'il y en a déjà eu une. C'est la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Donc c'est une loi un peu fourre-tout. C'est comme les lois de sécurité intérieure, donc c'est fait par le ministère de l'Intérieur donc pour remettre au goût du jour les lois. Donc il y a plusieurs volets, plusieurs titres et plusieurs articles dans cette loi qui viennent changer le code pénal, le code de procédure pénale. Et donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'article 4. L'article 4 qui dit que les fournisseurs d'accès, les opérateurs, doivent sans délai, à partir d'un arrêté que prend le ministère de l'Intérieur, doivent filtrer l'accès à certains sites hébergés à l'étranger. Donc au niveau de la technique, on s'oriente à peu près, on s'oriente normalement vers un filtrage BGP, c'est-à-dire que quand vous allez essayer de contacter un site, une IP, il y a un office central qui va dire cette IP c'est chez moi, donc il faut envoyer les infos chez moi. Donc ça pose quelques soucis, ça permettrait d'espionner, de faire une attaque man in the middle, d'usurper l'identité de la personne qui va essayer de se connecter à un site, soit tout simplement d'écouter si c'est pas chiffré.
Ça donne en fait les pleins pouvoirs sur le réseau, tout simplement. Mm. Sans compter la neutralité du net, qui là, on peut lui dire adieu. C'est clairement un moyen de faire tout ce qu'on veut sur la ligne internaute, sur un réseau de serveurs, sur tout et n'importe quoi, et d'avoir la main comme on veut.
Alors, il y aurait quand même, d'après certains FAI, il y aurait quand même un interne, un routeur BGP qui viendrait filtrer ce qui est annoncé. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même un contrôle des FAI pour voir, ça c'est dans l'arrêté, on filtre, mais c'est pas dans l'arrêté. Le filtrage, il serait bloqué par les FAI si l'OCTL CLIC, l'Office central de lutte contre les dérives et les crimes liés aux cybertechnologies, essayait de filtrer par exemple un site d'extrême gauche ou un site socialiste, hein, parce que les socialistes.
Sans compter les problèmes qu'il pourrait y avoir si par exemple on héberge du contenu qui serait potentiellement soumis à filtrage sur une machine ou un groupe de machines qui contiendrait des milliers et des milliers d'autres sites. Si on faisait juste une redirection BGP, la petite instance, elle recevrait la totalité du trafic de toutes ces machines. Donc effectivement, il faudrait que côté du provider, il y ait quand même un minimum de filtrage pour leur envoyer que ce qui les intéresse.
C'est malheureusement pas le seul problème sur l'article 4. Il y a eu pendant longtemps, au niveau du projet de loi, c'était directement l'autorité. C'était le ministère de l'Intérieur qui prenait des arrêtés et via l'OCTL-CLIC qui mettait en action ce filtrage. Et ça posait la question de si on peut vraiment pas empêcher le filtrage, si c'est la dernière solution. Ça serait bien que quand même ce soit l'autorité judiciaire qui prenne la décision. Et malheureusement, pendant très longtemps, il a fallu attendre cette semaine pour qu'un député en commission des lois arrive à faire passer l'amendement comme quoi c'est l'autorité judiciaire qui prend la décision. Que ce soit un juge des référés ou un juge classique, maintenant c'est un juge qui doit prendre la décision. Mais ça reste un projet de loi qui n'est pas encore voté, ça n'a pas encore sauté, donc il faut rester très vigilant là-dessus.
À savoir si on réussira à avoir cette liste de sites qui sont redirigés, si elle sera publique ou pas, si elle va fuir, si on réussira.
Normalement, elle est censée ne pas être publique, mais si on prend l'exemple du seul pays démocratique qui mettent en place le filtrage, c'est l'Australie. Il a fallu quelques semaines pour que la liste fuite. Et on s'est rendu compte que, ce qui était marrant, le pays a beau être démocratique, ou à peu près démocratique, du moins de l'extérieur, on a l'impression que c'est un pays démocratique, on s'est rendu compte qu'il y avait des opposants au filtrage qui étaient filtrés eux-mêmes.
D'accord, voilà.
Donc, et même parfois des sites assez méchants contre le ministre en question qui avait mis ça en place.
Alors, est-ce qu'ils étaient filtrés ou est-ce qu'ils étaient simplement redirigés pour voir ce qui passait dessus?
Non, c'était filtré. C'était,
filtré, donc bloqué carrément, bloqué. Pas juste espionné.
Oui. De toute façon, en Australie, c'est un blocage total.
Parce qu'ils pourraient simplement s'amuser à rediriger un site de façon à voir en fait, les messages privés qui sont envoyés dessus, connaître les discussions qui sont envoyées à travers ce site-là. Pas simplement le filtrer en disant, bah non, ce site, il y a de la pédopornographie dessus. Non, là, ils ont été apparemment beaucoup plus loin.
Et donc, sinon, au niveau de la LOPSI, il y a des trucs un peu intéressants. Ici, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le réseau, il y a des personnes qui s'intéressent à la sécurité informatique, qui utilisent des analyseurs de tram réseau. Et on n'avait déjà pas le droit de les utiliser dans certaines conditions, pas le droit de les utiliser. Maintenant, on n'a même plus le droit d'en faire la publicité. Donc, si je dis par exemple... Ça serait dans le projet de loi, mais par exemple, si je dis que Wireshark, c'est un outil qui est assez pratique pour analyser les différents protocoles qui passent, voir ce qui se passe au niveau des réseaux, même si c'est pour analyser une congestion réseau, dans les amendements pour le projet de loi, là, qui sont passés en commission, qui ont dû certainement passer, mais je n'ai pas vérifié, on n'aura plus le droit de faire la publicité pour un logiciel d'analyse réseau parce que ça peut être c'est un logiciel qui peut être utilisé pour espionner les gens et,
donc,
voilà.
D'accord, donc c'est un petit peu comme le peer-to-peer où on ne cherche pas à comprendre, à faire de détails en se disant qu'il y a une utilisation légale et utile. C'est voilà, les analyseurs réseau on n'en veut pas et les peer-to-peer du tout non plus, même si ça peut être utilisé pour autre chose. On ne cherche pas non plus à faire de détails.
Oui, et puis on va cacher des outils à des gens en fait qui les connaissent déjà. Enfin, je veux dire, les personnes à qui il faudrait cacher ça, c'est des gens qui sont au courant de toute façon avant les premiers de ces logiciels. Donc,
imagine une autre chose, c'est que la personne se retrouve sur un réseau, tu te fais pirater tes serveurs, t'as des gens qui mettent du contenu pas du tout souhaitable. Si t'as plus le droit d'utiliser ce genre d'outils,
ouais, voilà.
T'es même incapable de bloquer, de dire non, mais non, j'en veux pas. Tu dois laisser ça aux autorités.
Donc sinon, dans le projet de loi, il y a des trucs assez intéressants. Quand on regarde les amendements ou même le texte, dans plein d'amendements et plein de paragraphes, on voit, là, par exemple, amendement CL69 ou CL70, la création d'une comité nationale de la vidéoprotection. Bon, il y a la CNIL déjà qui a de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de budget. On va créer une autre commission pour les libertés numériques au niveau de la vidéosurveillance. Et bon, voilà, on divise et je suis pas sûr que ce sera efficace. Et sinon, le plus important, il y a le mot vidéoprotection qui est dans la loi, qui est un terme positif, parce que la protection, c'est
toujours
un terme positif. Alors que il faudrait utiliser un terme neutre, même si maintenant il a une connotation négative à force, qui est la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, ça dit bien ce que ça fait. Ça se surveille par vidéo. Donc là, moi, ça me dérange un peu de voir un peu la novlangue dans les projets de loi actuels.
Parce qu'en fait, les vidéos pour protéger, ils vont les jeter sur les gens ou...
Je ne sais pas.
Non, mais attends, il y a un pays comme ça où ils avaient des caméras vidéo, où ils ont couplé des haut-parleurs bien puissants dans la rue, et ils avaient la possibilité, ni plus ni moins, quand une personne faisait un acte pas forcément civique, ils avaient poussé le vice jusqu'à lui envoyer un message « Et vous, là, en plein milieu de la rue, vous avez jeté un papier en plein milieu ?» C'est pas bien. Ils l'ont fait, ça existe. Maintenant, je ne saurais pas dire le pays exact. Je pense que c'est anglo-saxon, une ville où ils ont été poussés ça assez loin. Mais ça ne va pas s'arrêter là, quoi. Ça ne va pas s'arrêter là.
Et non.
Donc sinon, après, dans les différents amendements, en gros, il y a l'irresponsabilité pénale d'agents du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense dans l'exercice de leur mission et l'irresponsabilité pénale de certains fonctionnaires. Donc, comme quoi, des choses que des citoyens ne peuvent pas faire, l'État peut le faire sans aucun problème. Voilà, c'est légal pour lui. Pour ceux qui s'intéresseraient à ce qu'on appelle l'intelligence économique, le fait de surveiller, de grappiller des informations sur ses concurrents pour être plus concurrentiel, bon. Après, on a beau être pour ou contre l'intelligence économique, c'est dans les personnes qui font de la sécurité, c'est un métier. Et là, par exemple, ça va être soumis à agrément. Et si on n'est pas moral, par exemple, on n'aura pas le droit de faire cette activité-là. Donc nous, quand on critique les gendarmes pour leur comportement, bah, on n'est pas moral. Et donc, par exemple, on n'aurait pas le droit. Alors, j'aurais voulu parler un peu donc d'un document qui avait été peut-être un peu traité dans les actualités, qui est An Insight into Child Porn. Donc c'est le témoignage d'une personne qui a passé quelques dizaines, voire vingtaines d'années à travailler dans l'industrie pédopornographique. Mais je pense que ça va prendre énormément de temps si on veut traiter ACTA.
Bon, on peut peut-être approfondir dans la prochaine, à la limite, plus approfondir, si tu le sens comme ça.
De toute façon, c'est pas comme si ces lois allaient s'arrêter la semaine prochaine.
Oui, c'est sûr.
Il y aura encore matière à
traiter. Ce document, on vous mettra un lien sur le site et ouais. On le traitera plus en profondeur.
Voilà, ouais, parce que c'est intéressant d'être traité plus profondément, pour lui réserver plus de temps.
Ouais. Et donc là, on va passer au niveau du développement sur ACTA, donc le Anti-Counterfeiting Trade Agreement, donc qui est un traité secret.
Voilà, donc en fait, on en est arrivé, les pays sont en train de le faire, et surtout en secret. C'est ce qu'il faut retenir principalement de cette actu-là. C'est donc grâce au site wikileaks.org, ainsi qu'à readwhiteweb.us, qu'on a eu cette information-là. Donc depuis 2006, il y avait les États-Unis et l'Europe qui ont commencé à discuter sur la possibilité on est en train d'uniformiser le commerce mondial, pourquoi on ne ferait pas ça pour les sanctions et la façon de filtrer l'Internet. Donc ils se sont réunis et Adopi et tout ça, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils ont en projet. Nous on s'arrête encore à la possibilité de dire s'il y a du contenu qui pose un problème, ça va aller jusqu'à des autorités, jusqu'à des personnes, des juges qui vont décider oui ou non de l'intérêt de sanctionner ou pas. Là l'idée c'est carrément de pousser ça jusqu'au bout. Donc les ayants droit pour tout ce qui est copyright, tout ça, auront la possibilité de connaître les coordonnées personnelles de l'utilisateur qui a entre guillemets fraudé. On pourra filtrer donc chez les fournisseurs d'accès, les rendant bien entendu eux-mêmes juges, ce qui n'est pas forcément souhaitable, ne serait-ce que administrativement, techniquement et au niveau des responsabilités. On pourra aussi par exemple vous contrôler vos équipements numériques à la douane, à l'aéroport, partout. Donc ni plus ni moins, vous ouvrez votre sac, au lieu de simplement vous faire une fouille pour des armes, on va carrément connecter vos lecteurs. C'est possible, mais ce sera à mon avis pas faisable. Donc ce qui s'est passé, c'est que en 2006, donc c'était entre l'Europe et les États-Unis, puis alors attendez que je retrouve la petite liste, ça a donné des petites idées à certains et il y a d'autres pays qui se sont joints à ça. Donc voilà, donc 2007 et USA, Europe. Ensuite on a eu droit à la Suisse, le Japon, l'Australie, le Canada, la Jordanie, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Corée, Singapour et les Émirats Arabes Unis. Donc là, c'est pour la version 2008. Ils ont pour l'instant fait 7 réunions. La dernière étant faite avec la participation de Google, qui a essayé de remuer un petit peu les choses. Et ce qu'on peut en retenir, c'est que suite aux fuites, il y en a certains qui ont dit on va essayer d'être un peu plus transparent, mais la grande majorité ont répondu on ne sera pas transparent. Et pour quelle raison? Ni plus ni moins parce qu'on sera plus efficace en cachant ce qu'on fait, clairement et officiellement dit.
Et ce qui est un peu hallucinant, c'est bien sûr ACTA, ça touche le numérique, l'internet, avec des tas de dispositions qui viennent vraiment faire un truc totalement sécuritaire et totalement parano. Mais là, on le développera pas parce que c'est pas le sujet dans notre émission. C'est bien plus large que les libertés numériques. Il y a les médicaments génériques dans les pays pauvres et même dans certains pays, dans la plupart des pays où la politique serait changée, où ce serait plus possible de produire certains génériques. Ça toucherait les brevets OGM, qui sont interdits en Europe pour l'instant, et les brevets logiciels. Ils reviennent par la petite porte, alors qu'ils avaient déjà été fichus d'or manu militari par les parlementaires européens, et là ça revient.
Voilà, donc au niveau des applications, voilà, s'ils arrivent à uniformiser ça, ils vont avoir un pouvoir bien plus important, puisqu'ils sont tous derrière les États. On s'arrête habituellement à tout ce qui est contenu copié et pédopornographie, mais là ce sera sur tout. Et justement ça pourra profiter à l'intelligence économique s'il y en a un qui veut réussir à rentrer là-dedans. C'est le savoir et l'intelligence mondiale qui passera forcément par l'ACTA. Alors comme des. Enfin. Moi, je me pose la question, encore une fois, quand on voit ce qui se fait en France, techniquement, c'est encore une fois pas réalisable. Eux, ils arrivent avec l'ACTA, ça sera encore plus compliqué. Donc, on verra jusqu'où ça arrive.
Bon, sur ce, on va vous laisser avec une petite pause musicale et on fera donc le développement technique juste après.
Je croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Nous voulions assurer votre protection.
Ne sois pas ridicule.
Mon ordinateur. Mes ordres à la lettre.
Mais j'ai envie de prendre les commandes.
Contre-culture, hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information, c'est Random, l'émission radiophonique du groupe Dégénération Lille.
Regarde par toi-même.
Quoi, tout de suite?
Oui, tout de suite.
Et donc ça va être donc au développement technique sur le freaking. Donc on va parler un peu de l'histoire du freaking, de quelques techniques dont beaucoup sont dépassées et qui ne sont là que pour tester sur votre ligne et pas sur et pas tester sur les autres lignes.
Ouais, ouais. Je fais juste excuse-moi une petite parenthèse, c'est le son qu'on vient d'entendre, c'est Acid Liver, l'artiste c'est Vic Net, c'est sur l'album Monsieur Adopi. Voilà, voilà.
Donc toutes les musiques vous les retrouverez sur le site avec de quoi des liens pour les télécharger.
Voilà. On vous mettra tous les liens. C'est Alix, c'est à toi.
Ouais. Alors, le freaking. Je pense que ce sujet était intéressant parce que c'est assez historique, il y a des bases, enfin il y a beaucoup de choses, même d'aujourd'hui, qui y font référence, comme je vais le voir, comme je vais y venir tout à l'heure. Mais d'abord, je vais dire que, bon, il y a, comme l'a dit Itacheré, il y a beaucoup de trucs qui ne fonctionnent plus, et voire ça fonctionnait que dans un seul pays. Donc vraiment, ce sujet, c'est plus historique que technique, mais quand même technique un peu, si j'ai le temps, c'est pas sûr. Alors, freak. Alors, en fait, c'est freak, écrit F-R-E-A-K, qui veut dire marginal. Mais en fait, ils se sont mis une petite mode, ils ont remplacé le F par un PH pour donner freak, comme on le sait. En fait, ça, c'est la passion de découvrir la technologie qu'il y a derrière les téléphones, derrière les PABX. Alors, les gens, ils sont. Enfin, en général, c'est vraiment les attraits de la découverte d'un monde qui leur est caché.
C'est un peu comme les hackers, en fait.
Ouais, ouais, voilà, c'est ouais. Ça. C'est l'équivalent analogique des hackers. Analogique et téléphonique. Alors, pourquoi on pourrait faire ça aussi? Parce que bon, on peut accéder à des fonctions spéciales, on peut avoir de l'anonymat, et puis parfois, on peut appeler sans payer. Bon, n'espérez pas, aujourd'hui, toutes les techniques que je vais dire là sont quasiment sûres de plus marcher, mais...
Ça donne une bonne idée de ce qui était possible de faire à l'époque et des failles de sécurité béantes qu'il y avait.
Ouais, alors il y a quand même un truc à retenir, c'est que toutes ces failles, en fait, ça vient souvent du fait que les commandes sont transmises dans le même canal que les données utiles. Puisqu'avant, on n'avait que deux fils et on transmettait dans la bande audio. Donc il fallait coder des ordres. Alors les ordres, vous les connaissez, il y en a que vous connaissez tous, par exemple les modulations des TMF. Little Charlie. J'aimerais bien avoir du son, s'il te plaît. C'est bon ? Voilà. Ah. Donc vous les connaissez tous. En fait, c'est deux fréquences audio qui sont transmises en même temps. Et selon une matrice prédéterminée, ça transmet un chiffre ou un symbole ou des commandes ABCD qui sont sur une quatrième colonne que vous ne voyez pas. Mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi une norme très utilisée qui s'appelle le CCITT5. Dans ce cas-là, ça ressemble plutôt à ça. Vous avez des chiffres aussi et des commandes. Donc ça, voilà.
Ça, c'est pour que la centrale reconnaisse le numéro.
Voilà. Donc, le freaking, par exemple, c'est les petites astuces de la téléphonie. Par exemple, en 1970, en France, il y en a qui se sont aperçus que quand leur boîte avait un filtre pour empêcher les gens de composer le 19 pour aller, par exemple, en international, en fait, il y en a qui appuyer sur le bouton de raccrochage du téléphone et le central comprenait le 1, puisque c'était la numérotation décimale qui utilisait des relais pour couper les lignes avec les vieux téléphones à cadran. Mais par contre, le filtre ne le reconnaissait pas et donc il pouvait appeler quand même. Bon, il y a aussi les histoires de télécartes, mais ça c'était plus récent et j'en parlerai pas. Bon, là je vais passer sur quelque chose beaucoup plus rigolo, c'est les box. Les box, les boîtes de couleurs. Je vais commencer par la Blue Box, qui est très connue, qui d'ailleurs a quelque chose à voir avec le groupe des 2600, puisque 2600, en fait, est la fréquence qu'il faut balancer pour pouvoir utiliser une Blue Box. Alors, je vais expliquer tout ça. Quand vous appelez loin, si possible, sur un numéro vert, d'un central, votre appel va prendre une ligne, parce que c'est de la commutation de ligne et pas de la commutation de paquets comme sur Internet. Alors, quand une ligne est libre, normalement, il y a une fréquence de 2600 Hz. Alors l'idée, c'est de balancer dans le canal de données, en fait, un truc qui va être interprété comme une commande. Et le central d'en face, il va croire que la ligne est libre, alors que vous êtes censé appeler un numéro vert. Et ensuite, une fois que vous avez balancé ce 2600 Hz, qui est très agréable, vous pouvez balancer en code un son pour dire bon ben là je vais commencer à appeler. Vous balancez ensuite en CCITT numéro que vous voulez, et ensuite vous faites le start code. Et normalement, si tout va bien, en fait le second central, bah lui il a cru que c'était le premier central qui lui parlait. Et bah en fait non, c'était vous. Bon alors là, souvent ils ont, bon, au début ils ont mis des filtres pour filtrer le 2600. Ou alors, quand le central en face il reçoit le key pulse, le son pour commencer à numéroter, le premier il le détecte et il vous déconnecte. Mais bon, c'était vraiment quelque chose. Alors il y a un truc qui... il y avait l'histoire du sifflet trouvé dans un paquet de céréales.
Un paquet de céréales, Captain Crunch, ce qui a donné le pseudonyme d'un hacker.
Voilà, qui sifflait pile à la fréquence qu'il fallait pour libérer les lignes. Ça, c'est des cadeaux qu'on trouve dans des boîtes de céréales. Bon, mais il y a d'autres box de couleurs. Par exemple, la beige box, en fait, l'idée, c'est vous prenez un répartiteur téléphonique, une batte de baseball, vous le défoncez, vous branchez vos lignes avec un téléphone avec des pinces croco. Comme quoi, c'est pas toujours compliqué le bonheur. Bon, bien sûr, ne le faites pas, parce que c'est illégal. Ensuite, vous avez...
La beige box permettait de faire quoi?
Ah oui, ça permet de connecter un téléphone sur une ligne de particulier. Donc, le faites pas, d'accord. C'est pas bien. Bien que ça, c'est peut-être le seul truc qui fonctionne encore aujourd'hui. Sinon, dans le même lignée, vous avez l'orange box, qui permet de falsifier les caller ID. Alors, les caller ID...
Moi, j'aime pas les orange box, hein. Ça plante tout le temps.
S'il te plaît, il me reste plus que 5 minutes. Alors, l'orange box, en fait... Ça falsifie les caller ID. C'est sur ligne analogique, vous recevez le numéro et parfois le nom de votre correspondant. Là, c'est vous appeler et puis ensuite, de suite après, quand vous avez par exemple le fax vous a répondu, vous le renvoyez et puis des fois vous arrivez à le passer dessus. Alors, le caller ID, c'est une trame FSK qui ressemble à ceci. Et normalement, c'est transmis entre la première et seconde sonnerie de téléphone.
Donc ça permettrait d'envoyer des fax avec le numéro de quelqu'un d'autre.
Voilà, ou même appeler quelqu'un si il fait pas gaffe. Bon, ensuite, vous avez, classé par ordre de logique, la magenta box. En fait, la magenta box, c'est lorsque carrément, vu que vous faites du belge box, vous coupez la ligne aussi. Comme ça, vous séparez la ligne de votre cible, un particulier ou une entreprise, surtout une entreprise, du central. Ça permet d'imiter le signal continu, le signal alternatif pour le faire sonner, et ça permet directement de téléphoner à un particulier sans passer par le central. Et là, tant qu'à faire, puisque vous y êtes, faites une vermillon box, c'est-à-dire une beige box, plus orange box, plus magenta box. Vous pouvez carrément vous faire passer pour le central, avec le caller ID de n'importe quoi balancé pile au bon moment. C'est du social engineering après, pour que ce soit utilisable. Ensuite, au niveau de piratage des cabines, qui n'a pas entendu parler des red box. Les red box, pourquoi red box? Parce qu'en fait, bah, une boîte rouge, en fait, ça ressemble un peu aux cabines téléphoniques anglaises. Je crois que c'est les cabines téléphoniques anglaises, ouais, ou aux États-Unis. Alors, c'est tout simplement trois tons qu'émet la cabine lorsque les pièces sont insérées. 5 cents, 10 cents et 25 cents. Ça, c'était tellement simple que franchement, c'était pas piraté un jour, c'était vraiment un miracle. Mais ça fonctionne pas que dans ce sens-là. Lorsque quelqu'un avec une cabine compose le numéro de quelqu'un d'autre, et que sur certaines cabines aux USA, dans certaines parties de leur pays, enfin de leur état, parfois c'est la cabine qui reçoit les sons pour contrôler le monnayeur. Et là, la personne qui est en face peut imiter les sons, toujours en CCITT5, pour par exemple rendre la monnaie, alors que... Ça permet de balancer des commandes dans l'inverse. Et sinon, il y a certaines cabines qui en fait, quand vous appelez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de mettre des pièces. Ça, c'était pas très répandu, mais ça existait quand même. Seulement, tant que vous n'avez pas payé, ça coupait votre micro, donc vous ne pouvez pas parler, donc ça ne sert à rien. Alors, dans ce cas-là, le but, c'était de prendre un gros ampli avec une boucle d'induction que vous placez autour de la cabine le mieux possible, l'endroit où ça marche le mieux. Et le micro coupé, vous balancez votre voix dans cette boucle d'induction, et quelque part, il y a bien un petit transfo qui va réussir à transmettre votre voix dans la ligne téléphonique. Ensuite, il y a des délires et des fantasmes.
Par exemple, la Blast Box, qui en fait, vous avez un correspondant chiant. Alors, au temps des box, c'était simplement des relais, c'était relié directement, et c'était pas du numérique, donc le niveau n'était pas limité. Alors, le correspondant est chiant. Pas grave, vous balancez un ampli de 5-10 watts, ce que vous voulez, et vous lui explosez les oreilles. Ah, parce que ça devrait vraiment faire du bien, quoi. Et la Blotobox, que j'ai trouvé rigolote, mais celle-là, à mon avis, c'est vraiment un fantasme. Ça, selon ce que j'ai lu, c'est bon, vous ouvrez un répartiteur, vous mettez tout plein de fils un peu dedans, et ça nécessite l'emploi d'un groupe électrogène à démarrage télécommandé, et apparemment, ça permettait de tout faire péter, faire sauter toutes les lignes, voire de faire sonner tous les télécommandes, tous les téléphones du quartier en même temps. Bon, j'ai vu que si on pouvait être trop près, on pouvait être tué. Bon, donc, voilà.
Petit désavantage.
Bon. Voilà. On me fait signe que j'ai plus le temps et je vais donc rendre le micro aux autres membres de l'équipe.
Bon, bah, un petit agenda très très court. Les meetings de 1600 le 5 février, les lundis des libertés numériques le 15 février et Ch'tinux avec les mardis du libre, la permanence, le 23 février. Voilà, voilà, on va vous laisser avec Choupa Pimento sur Radio Campus 106.6 FM. A bientôt, dans deux semaines. Salut.
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 Salut.